On apprenait ce matin que plus d'un millier de personnalités connues et d'experts demandent une pause de 6 mois dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Et il y a des parlementaires qui voudraient que, justement, l'Assemblée nationale se penche sur ce phénomène de l'intelligence artificielle. Et Frédéric Beauchemin, député libéral de Marguerite Bourgeois, est avec nous pour en parler. Donc, vous voulez un mandat d'initiative, Frédéric Beauchemin?
Oui, absolument. J'ai un mandat d'initiative pour qu'on puisse mettre en place des balises, pour qu'on puisse un peu entourer tout ce développement-là pour faire en sorte qu'on puisse permettre une transition beaucoup plus humaine aux conséquences que ça va apporter, là.
Oui, vous êtes venu ici en parler il y a quelques semaines. Oui. Vous n'aviez pas encore d'idée précise de cet encadrement-là. Est-ce que ça s'est précisé dans votre esprit ou vous avez besoin quand même des consultations du mandat d'initiative pour donner des exemples?
Bien, il y avait un peu l'apprentissage parlementaire à savoir quel véhicule serait la meilleure affaire pour me rendre à l'objectif. Le mandat d'initiative est donc l'avenue qu'on a choisie. Les balises en tant que telles, je pense que ce qui est important, c'est de garder en tête que tout ça évolue à une vitesse grand V. Puis la question, c'est pas de savoir si ça va avoir une influence ou pas sur nous, mais plutôt quand, puis jusqu'à combien, on peut dire d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse avoir une conversation qui va faire en sorte que les gens se penchent. Est-ce que j'ai toutes les réponses maintenant? Non, vraiment pas. Puis je suis pas vraiment un expert non plus, là, mm-hmm. en science non plus, là, mais au moins on fait une liste de gens de la société civile qu'on pense qui serait pertinent, qui pourraient venir s'asseoir avec nous et nous donner leur opinion.
Quels sont les risques et les opportunités de l'intelligence artificielle, selon vous, avant même là, d'avoir fait cette consultation-là?
Ouais. Si je peux juste donner un petit exemple de quelqu'un qui m'a dit comme quoi que, ben tu sais, ChatGPT-3, la version oui. qu'on a actuellement, c'est comme la tête d'une aiguille, OK?
Oui.
Et puis ChatGPT-4, ben c'est à peu près le format, l'empreinte sur une table, là, c'est à peu près le format d'un disque compact.
Oh!
Alors, juste pour vous donner une idée de l'image, des ramifications de la nouvelle version qui semble avoir fait en sorte que la majorité des gens qui ont signé la lettre là, ce matin veulent avoir une pause. Là, okay? Les ramifications sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus loin. Donc, les risques, pour répondre à votre question, les risques sont ceux de la transition humaine à permettre justement qu'on n'abandonne pas les gens qui ont étudié toute leur vie, qui là, soudainement, du jour au lendemain, leurs emplois sont rendus caduques. Pour moi, personnellement, l'aspect de la transition humaine est extrêmement important. Puis aussi, l'aspect de « je ne veux pas que ça tombe dans les mains de mauvaises intentions ».
Oui.
Pour moi, c'est cet aspect-là. Donc, si on peut imprégner nos valeurs de société, si on peut imprégner la valorisation qu'on fait de l'être humain, là, okay, dans les balises pour le développement de l'intelligence artificielle, eh bien, pour moi, ça, je trouverais ça une réussite. Parce qu'on va avoir à se servir d'un outil, puis là, on va parler des risques, on va parler des bénéfices. Les bénéfices sont qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, mm-hmm. à peu près, on peut se servir de l'outil pour nous aider. Mais maintenant, il faut quand même qu'on contrôle un peu ces leviers-là de l'outil pour pas que, comme dans les pires scénarios comme on a entendu, que ça soit une gang de machines qui décident tout pour nous autres puis que
eh oui.
tout le monde n'a rien à faire. Là. C'est sûr que ça, c'est le scénario catastrophe. J'y mets pas tant de possibilités. D'un autre côté, il y a des gouvernements sur la planète qui, pour eux, ne se gêneront pas là, d'aller le plus loin possible avec ces affaires-là.
C'est ça. Mm. D'ailleurs, déjà en 2015, moi, j'avais fait un éditorial sur la bombe I. Et c'était l'inquiétude. C'était une lettre ouverte comme ça qui avait attiré mon attention. Ouais. Et on avait peur à ce moment-là, c'est ça, de l'autonomisation de l'intelligence artificielle qui pourrait s'emparer même de robots tueurs.
Donc, le robot Google là, qu'on a vu et tout. Là.
Ah oui?
Le soldat robot là, à quatre pattes là, qui court plus vite que l'être humain et tout. Là. Toutes ces histoires-là, c'est tous des scénarios catastrophes qu'on pourrait s'imaginer. Mais
on a l'impression d'être en science-fiction.
D'une certaine façon. Mais ce que je veux juste démontrer, c'est, vous savez, quand l'automatisation est arrivée dans les chaînes industrielles pour, par exemple, les manufacturiers de voitures, Mm-hmm. Tout le monde a vu les grands bras là, qui soudaient des pièces de voiture et tout, puis c'est la révolution, etc. Plusieurs personnes ont été un peu sacrifiées à ce moment-là pour la technologie, mais les balises, à l'époque, n'avaient même pas été discutées. C'était pas quelque chose que la société voulait avoir comme conversation. Avec l'expérience, on a ces réflexes-là maintenant qui sont plus naturels. Un instant, pensons à l'être humain, pensons à la transition humaine, mettons des balises, ayons cette conversation-là pour savoir comment le faire.
Mm-hmm.
Et donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, quand on regarde la courbe exponentielle de l'amélioration des technologies, je vais le faire de votre côté, quand la courbe s'en va comme ça, mais la courbe en montant, elle est vraiment concave. Mm-hmm. Ça s'en va de plus en plus vite, le changement technologique. Donc, et c'est pour ça que c'est super important de s'assurer quand on parlait en 2015, on avait les balbutiements de ce que ça s'en venait, qu'est-ce que ça allait avoir.
On avait Siri, moi, dans mon édito, où je disais Siri, ces trucs-là.
Exact. Puis là, maintenant, on est vraiment à un autre niveau. Là. Puis quand je vous donnais l'exemple de ChatGPT, qui est comme une tête d'aiguille, GPT-3, puis que GPT-4, bien, c'est l'empreinte de GPT-4 sur une feuille de papier. En moins d'une décennie, c'est le gros disque dur, là, ça, comme empreinte. Fait que c'est ces changements-là, ont des conséquences sur l'être humain. Ces changements-là ont des conséquences sur la société. Puis je pense que c'est important qu'on s'assoie puis qu'on en parle pour que tout le monde n'ait pas peur non plus de ce que ce changement-là va avoir comme conséquence. Il y a des gens pour qui ils vont être capables de rationaliser certaines de nos craintes. D'autres personnes vont peut-être nous amener à un autre niveau d'inquiétude qu'on n'a pas. Mais je pense que c'est d'avoir cette conversation-là sur la place publique qui est importante.
Alors, vous voudriez inviter notamment le scientifique en chef du Québec, Rémi Quérillon?
Oui.
Il y a toute une liste là, dans votre demande de mandat d'initiative. L'Institut québécois d'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'entreprise privée. Il y en a des entreprises privées qui font de l'intelligence artificielle au Québec.
Oui.
Pourquoi l'absence de ces entreprises-là?
Bien, en fait, la liste n'est pas fermée. Il y a peut-être de la place pour en ajouter, c'est sûr.
Ah oui, c'est vrai. Je vois toute autre personne pouvant apporter un éclairage pertinent.
Il y a de la place pour d'autres places, mais pour d'autres personnes. Mais actuellement, le contrôle de cette technologie est à l'extérieur des mains de toutes les personnes qui sont là, sauf l'entreprise privée.
Ah oui.
Et donc, pour moi, la question que je me pose, c'est que pour notre société, est-ce que c'est bon que ce ne soit, qu'il n'y ait aucune représentativité du monde dans la prise de décision, dans la mise en place de balises?
Ou dans le développement? Est-ce que ça devrait être une entreprise étatique qui serait redevable à la population? Qui développerait ce genre de truc-là. Moi, j'ai entendu là, des scientifiques et des chercheurs dire ça, que ça n'avait plus de sens là, d'avoir tout uniquement le privé qui s'occupe de ça. Il faudrait que nos États aussi s'y mettent.
Ben, je pense qu'une première étape pour l'État, une première étape pour les gouvernements, c'est de mettre en place les balises.
Oui.
La première étape, c'est de justement s'asseoir avec ces gens-là puis de leur dire, bon, ben voici ce que nous, on veut que ça soit, comment ça va être fait, puis ben, on va stimuler vers le bon développement selon nos valeurs pour que vous puissiez être évolutif dans la société, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est la première étape.
Est-ce qu'il faudrait l'interdire à l'école, ChatGPT, selon vous, ou de quelle manière faudrait l'introduire?
C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse. Je pense que il y a des apprentissages qui peuvent être faits avec la technologie. Je pense que ça peut aider à justement faire évoluer la conversation sur le sujet. Mais encore une fois, la prise de décision pour l'établissement, la mise en place de balises pour guider l'évolution de la technologie, ben je ne pense pas que ça doit être que le secteur privé. Je pense que tous les joueurs, tous les acteurs de la société civile doivent y faire partie. Puis, ben je pense qu'il y a des gens qui ont mis du capital à risque pour pouvoir le développer. Ces gens-là doivent éventuellement avoir l'économie de marché qui vont les aider à retrouver leur bille puis faire de l'argent, puis tant mieux pour eux si c'est le cas. Mais je pense qu'en bout de piste, c'est extrêmement significatif comme changement. Donc, ça va au-delà de juste les sous, là.
Ça existe déjà dans le monde bancaire. On s'était parlé un peu de ça, mais pas de façon très élaborée. Parlez-moi un peu, vous étiez avant à la Banque Scotia.
Exact.
Donc, c'était l'intelligence artificielle. Quelle place avait-elle dans le monde bancaire?
Dans le monde bancaire, premièrement, les premiers balbutiements que moi j'ai vus de plateformes électroniques, si on peut dire d'une certaine façon, pour... remplacer des intermédiaires, parce que la résultante, c'est que ça a été ça, ça a remplacé quelques intermédiaires, c'est des plateformes de négociation. Fait qu'au lieu d'avoir un téléphone, tu parles à quelqu'un, bien là, tu passes par un screen, par un écran avec lequel tu dis, moi, je veux faire telle transaction, puis là, il y a des gens qui vont dire, mais moi, je suis preneur à tel prix, puis donc, les gens se rencontraient par écran.
OK.
L'intelligence artificielle, mais par la suite, elle a été utilisée pour avoir une idée des données des gens, comme par exemple, quelles sont vos habitudes bancaires, quelles sont vos habitudes de consommation, puis à partir de là, ils vont extrapoler les services qui vont avoir été nécessaire. Un peu à la, peut-être de façon beaucoup plus moins évolutive, là, d'une certaine façon, mais à la Facebook, avec tout leur marketing qui est bien ciblé par individu, parce que le profil de l'individu, les habitudes de consommation ou de visionnement d'individu l'amènent donc à être un client potentiel pour tel genre ou tel genre de commercial.
Oui, parce que c'est important de le dire. L'intelligence artificielle, c'est pas l'informatisation générale. Il faut qu'il y ait une forme d'autonomie, de décision de la machine.
C'est un arbre de...
À partir de la données.
C'est ça. À partir des données, il y a un arbre de décision qui est généré. Puis le scénario le plus probable, c'est que cette personne-là va aimer tel genre de commercial sur son fil de Facebook, par exemple.
C'est ça.
Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et donc dans le monde bancaire, il y a des équivalences au niveau quel genre de consommation de carte de crédit, des points, etc. Mais c'est pas...
Ça, c'est de la consommation.
Consommation, oui. C'est vraiment...
Mais de la négociation, c'est encore plus...
C'est parce que j'ai...
Impressionnant.
J'ai quand même vu
la machine négocie ou quand la machine essaie de chercher la situation optimale à partir d'une masse de données...
C'était un appariement de l'offre et de la demande qui était de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide que l'ancienne méthode de parler aux négociateurs ici et là, à un vendeur ici et là. Puis ça, on centralisait là, rapidement.
Là, il y a une autre partie, Québec solidaire, qui va faire une demande similaire, d'après ce que j'ai compris. J'ai entendu ça à travers les branches.
Oui, c'est possible, effectivement.
OK. Donc, est-ce que vous allez vous liguez tous les partis d'opposition pour demander ça? Puis pensez-vous qu'il va y avoir de l'ouverture de la part du gouvernement?
Écoutez, pour moi, c'est pas un enjeu partisan. Je pense que oui, je représente le Parti libéral du Québec, mais pour moi, cet enjeu-là, c'est un enjeu de génération. Alors, je pense qu'on peut aller au-dessus de la partisanerie puis s'assurer que ce qu'on fait en sorte de laisser à nos enfants... et aux prochaines générations, des balises, laissant en place l'équipement, les moyens de leurs ambitions pour pouvoir avoir un succès dans leur avenir. Donc, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment une partisanerie là-dedans, mais ça se peut. Je suis tout nouveau dans la partie, comme vous savez. Fait que j'apprends un peu à force de faire des essais, là, comment ça fonctionne. Mais ça va au-delà de la partisanerie. Je pense que c'est bon pour l'ensemble de tout le Québec. C'est l'ensemble de tous les Québécois. Puis ça va au-delà de nos frontières.
Ouais.
Donc,
est-ce qu'on a été naïf face à l'intelligence artificielle? Je me souviens que j'avais posé la question une fois à Philippe Couillard, qui était... emballé, comme tous les politiciens, toute la classe politique, par d'éventuels progrès techniques. Est-ce qu'on a été un peu aveuglé face à certaines possibilités qu'on nous faisait miroiter?
Je pense que l'expérience passée n'avait pas démontré autant de potentiel, si on peut dire, de changement drastique de société que ce que ça offre. Donc, de par les expériences passées, les commentaires passés d'anciens individus sur les conséquences d'un changement de technologie peuvent s'expliquer là, par ça. D'un autre côté, moi, je pense que, la situation actuelle est vraiment différente parce qu'on est dans une situation où est-ce que c'est vraiment les gens, là, à travers la stratosphère très à l'intérieur de la machine, si on peut dire, d'une certaine façon, qui eux autres...
Qui sonnent l'alerte.
Qui font le cri d'alarme. Là. Donc, ouais. Ces gens-là qui, il y a plusieurs années, Benjo et toute la gang n'étaient pas en train de dire « c'est pas un problème, il n'y a pas de souci, les êtres humains sont eux qui vont programmer, donc, etc., etc. » Mais là, on semble remarquer un changement là, du discours.
Moi, j'ai déjà animé un débat où Benjo était présent, un des participants, puis il m'avait dit « Ah, il n'y a pas de souci. L'intelligence artificielle, pendant un bon bout de temps, ça va être l'équivalent de l'intelligence d'une grenouille. Donc, il n'y a pas de danger.
» Mais c'est intéressant parce qu'en bout de piste, aujourd'hui, on fait face à cette évolution même du personnage.
C'est ça.
Puis c'est fantastique parce que ça veut donc dire qu'on peut tous prendre conscience en ce moment. La conclusion, je pense, c'est vraiment de s'assurer qu'on puisse mettre en place les balises. Puis d'inviter tous les participants de la société civile de pouvoir donner leur grain de sel.
Merci beaucoup, Frédéric Beauchemin.
Avec plaisir, merci.
Député libéral de Marguerite Bourgeois et critique en matière de...
Finance et innovation et économie.
OK. Merci.
Merci.
Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille, évidemment. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.